Bonjour, ici Richa El Hadji et bienvenue dans First Time Founders, le podcast des aspirants entrepreneurs. Deux fois par mois, je vous propose l'interview d'un ou d'une entrepreneur qui se lance pour la première fois. Ici, on démystifie la réussite. Loin des strass et des paillettes qui collent à la peau du monde de l'entrepreneuriat, mes invités vous parleront de leur vécu, de leur parcours et de leurs difficultés. J'espère que cet échange va vous pousser à mener à bien tous vos projets et vous fournira la dose d'inspiration et de motivation qu'il faut pour vous lancer. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Joseph Chouefati, le CEO et cofondateur de Goodvest, un nouvel acteur de l'épargne qui s'est spécialisé dans les projets responsables et durables. Avec Joseph, nous allons parler de son parcours original, de la jeunesse de Goodvest, de la difficulté à trouver le bon associé et de lever de fonds. Nous allons également parler des moments difficiles qu'il a pu vivre, de finances responsables et de bien d'autres choses encore.
Salut Joseph, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de me parler un peu de Goodvest ?
Merci beaucoup pour l'invitation, avec plaisir. Donc je m'appelle Joseph, j'ai 23 ans, je viens de terminer le master Polytechnique HEC Entrepreneur. Et j'ai commencé à travailler sur Goodvest pendant ce master-là, donc il y a maintenant 6 mois. Goodvest, c'est une solution d'épargne responsable qui permet aux épargnants d'investir en fonction de leurs valeurs, donc de choisir leurs thèmes comme l'environnement, l'égalité des genres, la santé, parce qu'on l'ignore, mais en fait, notre épargne, elle a un impact. Elle peut être investie dans des secteurs qui sont à l'encontre de nos valeurs, comme les énergies fossiles ou bien l'armement. Je vous invite à demander d'ailleurs à votre banquier où est-ce que va votre argent, qu'est-ce qu'il finance. Et souvent, l'empreinte carbone de votre épargne, elle est considérable et elle n'est pas alignée avec les accords de Paris, elle est alignée avec un réchauffement de 4 degrés. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être transparent et de démocratiser l'investissement responsable.
On va revenir sur Goodvest, mais est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours scolaire ?
Oui, bien sûr. J'ai 23 ans, donc il est assez récent. J'ai fait un bac scientifique. Après, je suis parti à l'EHL, en Suisse. J'avais une spécialisation en finance. J'ai choisi de ne pas me lancer dans le secteur de prédilection de l'EHL, qui est le management dans le secteur de l'accueil et du tourisme. Je pense que j'ai bien fait vu la situation actuelle. J'étais toujours passionné par l'entrepreneuriat. Donc, j'ai fait une spécialisation finance et entrepreneuriat à l'EHL. Ensuite, j'ai rejoint Polytechnique HEC Entrepreneur il y a un peu plus d'un an maintenant. Et dans ce cadre-là, j'ai fait le Launchpad, qui est l'accélérateur d'idées du master.
D'accord. En fait, c'est étonnant pour quelqu'un qui a suivi des cours en hôtellerie de créer une fintech. Tu peux nous expliquer un peu le cheminement de pensée qui t'a mené de l'hôtellerie à ça ?
Oui, bien sûr. Alors, on dit souvent que c'est un parcours original. Pour clarifier un point sur l'EHL, donc certes, c'est une école de management hôtelier à la base, mais c'est vraiment une école de commerce, on a des cours de M&A, de portfolio management. Ça m'a quand même donné des armes pour la finance, pour la fintech. J'ai toujours été un peu passionné quand même par le secteur de la finance et de la finance verte. Je viens d'une famille d'entrepreneurs et mon père a fondé une société de gestion qui s'appelle Tobam. Et donc, je baigne un peu dans ce milieu depuis que je suis petit. J'ai fait un stage chez Amundi Pioneer en gestion de portefeuille. Et je gère des portefeuilles depuis mes 18 ans pour moi et pour mes proches. C'était assez logique.
Et donc, pourquoi est-ce que tu n'as pas rejoint à la fin de ton, à la fin, quand tu as eu ton bac, pourquoi est-ce que tu n'as pas rejoint une école, une prépa ou un bachelor ?
Alors, donc, moi, c'est un bachelor ce que j'ai fait du coup à Lausanne. Okay. Pourquoi je n'ai pas rejoint une prépa ou alors une école de commerce post-bac ? C'est parce que j'étais quand même déjà à l'époque très intéressé par le secteur de l'accueil, même si je n'étais pas certain non plus de ce que je voulais faire et je savais que l'EHL gardait beaucoup de portes ouvertes. Et c'est surtout parce que j'étais passionné par le business et je voulais directement commencer à travailler avec des entreprises. Et à l'EHL, on a beaucoup de projets de groupe. J'aime beaucoup travailler en équipe. Il y a pas mal de place pour quand même l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de projets. J'ai pu travailler avec le groupe Accor, avec le groupe Metro, pour lequel on a développé une application mobile. Et voilà, en fait, je ne voulais pas faire 2 ans de prolongation de lycée, entre guillemets. Je voulais directement rentrer dans des choses plus concrètes.
Très bien. Et tu peux nous parler ensuite comment tu t'es retrouvé à HEC? Qu'est-ce qui t'a mené en fait à postuler au master entrepreneuriat? Est-ce que c'est commun d'avoir des écoles, des élèves issus d'écoles d'hôtellerie au master XHEC entrepreneur?
Bah oui, c'est assez commun en fait les étudiants de l'EHL qui vont à HEC. En fait, c'est assez logique parce que il y a cette culture entrepreneuriale, cette culture de business et cette exigence qu'y a l'EHL qui plaît à HEC. Et donc, il y a une dizaine d'étudiants hein, qui chaque année vont continuer leurs études avec un master à HEC dans les différents masters. Dont plusieurs du coup chaque année dans le master entrepreneur. Et donc moi, comme je te le disais, je suis passionné par l'entrepreneuriat depuis plusieurs années. J'ai pris pas mal d'initiatives en parallèle de mes études dans différents secteurs. J'avais créé une société dans l'événementiel. Et puis du coup, j'étais toujours passionné par l'entrepreneuriat. C'est vraiment ce qui m'animait. Et donc c'est pour ça que c'est un peu la suite logique. Je me sentais pas non plus de lancer une société directement après l'EHL. Je voulais une formation complémentaire. Et du coup, c'est ce que HEC m'a apporté.
Et qu'est-ce qui, selon toi, te passionne dans l'entrepreneuriat?
Bon, alors, il y a une sorte de goût du risque. Je pense que c'est un point commun qui peut y avoir en gestion de portefeuille, tant qu'il est maîtrisé, bien sûr. Je suis aussi assez aventurieux et curieux. Et j'aime bien être responsable directement de mes actes. Ça veut dire que voilà, quand je travaille bien, j'ai un retour direct et l'entrepreneuriat, c'est exactement ça, hein. Et puis voilà, j'ai aussi une passion d'entreprendre, de créer un produit, également de pouvoir satisfaire les clients. C'est aussi ce que je trouverais dans l'hôtellerie, en fait, parce que le secteur de l'accueil, c'est quand même prendre soin des gens et les rendre heureux. Et donc c'est quelque chose que je retrouve vu que Goodvest c'est un produit B2C quoi.
Super. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu de l'idée de Goodvest? Est-ce que la finance responsable, est-ce que c'est un domaine que tu connais depuis longtemps, qui te tient à cœur, tu as toujours voulu te lancer là-dedans, ou est-ce que tu as découvert ça en faisant des recherches et en creusant un peu les différents sujets sur lesquels tu pouvais créer une entreprise?
Alors un petit peu les deux. Je me suis rendu compte en tout cas qu'il y avait une opportunité, qu'il y avait un problème au sein du master à HEC du coup. Et j'étais passionné par la finance et par la finance verte depuis mes 18 ans environ, donc depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Au début c'était plutôt la finance et ensuite je me suis rendu compte de l'impact qu'elle pouvait avoir aussi bien de manière positive que de manière négative. Et voilà. Et dans le cadre du Launchpad, on a fait une grande étude sur un peu plus de 400 épargnants, et on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de non-alignement avec les valeurs. Et en creusant un peu le sujet, en creusant une étude de l'Oxfam, en parlant à différents acteurs, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de transparence et d'incompréhension de l'épargne de la part des Français. Et on a voulu du coup permettre aux Français simplement de reprendre en main leur épargne, pour construire un avenir meilleur à la fois pour eux, donc en leur donnant un rendement financier, puisque là aujourd'hui les rendements des produits d'épargne classiques comme le livret A ou les fonds euros sont en chute libre et ne rapportent plus rien par rapport à l'inflation, et construire un avenir meilleur aussi pour le monde, donc en orientant leur épargne en fonction de leurs valeurs. C'est ça
Super
l'idée.
intéressant. Ouais, je vois le truc. J'ai vu énormément de boîtes se créer dans le domaine ces derniers temps, que ce soit des néobanques responsables à la manière de Enlivan ou Helios, ou des produits comme le tien. D'ailleurs, je m'interroge en fait sur la différence qui existe entre, par exemple, une néobanque responsable, comme j'ai pu en citer, et ton produit à toi. Tu n'es pas vraiment une néobanque.
Effectivement, on n'est pas du tout une néobanque, on n'a pas vocation de l'être. Et justement, on est en partenariat avec plusieurs néobanques. Donc, c'est un point super intéressant, merci beaucoup. Pour l'instant, je ne peux pas donner de nom, je pense qu'à la sortie du podcast, ce sera officiel, mais donc, on travaille avec plusieurs néobanques vertes. Donc, les néobanques, leur métier, c'est de proposer un compte courant, une carte de paiement et éventuellement d'autres services. Donc, dans ces autres services-là, on peut retrouver des prêts, on peut retrouver des solutions d'épargne, comme de l'assurance vie, comme on fait nous. On peut retrouver vraiment plein de produits différents. Et leur métier, ce n'est pas forcément de créer tous ces produits-là, parce que c'est un travail monstre. En fait, c'est le travail d'une banque. Donc, ça requiert énormément de ressources et c'est très compliqué. Nous, on a choisi du coup de se positionner sur un domaine légèrement différent, l'épargne, l'investissement. Donc, on est vraiment des spécialistes de l'investissement. On a des conseillers en gestion de patrimoine et on pilote des portefeuilles. Donc, c'est assez complémentaire, en fait, d'où les synergies. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, c'est assez clair. Et tu peux un peu nous raconter les débuts de Goodvest. Bon, vous venez à peine de vous lancer, donc je pense que t'en es pas encore. Enfin, j'espère que t'en es pas encore aux grandes remises en question du sens de ta vie et aux grandes problématiques. Mais est-ce que tu peux nous parler en fait de ton expérience jusque-là et ce que à quoi ressemble en fait une expérience l'expérience de monter sa boîte en étant étudiant?
Très clair. Bah, écoute, ça fait quand même 6-7 mois, donc je suis passé quand même par des étapes de petites remises en question, mais sans jamais que ce soit quelque chose de bien grave. Surtout que j'ai changé de cofondateur quand même, donc
On va
donc.
revenir dessus.
Donc voilà, c'est trouver la bonne personne, ça peut prendre du temps et ça peut, on peut se poser des questions suite à ça, mais voilà, écoute, moi j'ai commencé à travailler sur le projet du coup pendant le confinement dans le cadre du master avec Yasmina qui elle n'a pas choisi de continuer le projet parce qu'elle voulait plutôt travailler dans le domaine des VC, des fonds d'investissement. Et donc depuis, voilà, l'objectif au début, c'était vraiment de comprendre s'il y avait véritablement une traction commerciale, s'il y avait un besoin. Donc on a interviewé beaucoup de monde, on a testé un petit peu, on a fait une landing page, des exercices assez classiques pour vérifier qu'il y avait un besoin. On a vu qu'il y avait un besoin, donc on a interviewé beaucoup de monde pour vraiment comprendre leurs demandes. Et on a lancé les préinscriptions au début de l'été. Aujourd'hui, on en a un peu plus de 700, avec près de 5 millions d'euros d'intention d'épargne, donc ça avance bien. On a également un partenariat avec un assureur aujourd'hui pour pouvoir distribuer de l'assurance vie et avec des différentes sociétés de gestion. On a obtenu toute la réglementation qui est très complexe à obtenir quand on fait de l'épargne, donc de conseil en investissement financier, de courtier en assurance vie, la certification AMF. Et donc ça a pris des mois. Aujourd'hui, on les a obtenus. Et donc là, on est vraiment en dernière étape de lancement. Ça veut dire qu'on finalise le produit. On va bientôt onboarder les premiers utilisateurs. On fera un lancement à grande échelle début 2021.
Très clair. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu le moment où du coup Yasmina a dû partir et comment tu l'as vécu? Comment est-ce qu'on fait en fait pour changer de cofondateur au milieu de l'aventure? Et surtout, du coup, comment est-ce que tu as choisi ton autre cofondateur?
Alors déjà, je ne sais pas que je m'y attendais, mais on a beaucoup pivoté au sein du master HEC. On a eu plusieurs idées. On a commencé à travailler au début sur une idée d'application qui n'avait rien à voir, qui était la location de vêtements. Donc, ça n'avait rien à voir. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas trop de marché. Et du coup, moi, j'avais cette idée d'investissement responsable en ligne qui me trottait quand même dans la tête depuis quelques mois, si ce n'est plus. Et on l'a testé, le marché, et là, ça fonctionnait. Yasmina, du coup, à la base, n'était pas forcément passionnée par le milieu de la finance, comme moi en tout cas. Et du coup, voilà, elle a choisi de ne pas se lancer tout de suite dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'elle y reviendra. Et elle a préféré, du coup, travailler en VC pour quand même garder un contact avec le milieu entrepreneurial, même si c'est de manière indirecte. Bah, de toute façon, on devait trouver un autre cofondateur ou une autre cofondatrice parce qu'on avait besoin d'un CTO, parce qu'on fait quand même une solution d'épargne en ligne. Donc, il fallait quelqu'un qui développe le produit, en tout cas l'aspect technique du produit. Et donc, on avait déjà commencé un peu nos recherches. Et en fait, j'ai rapidement été contacté par un entrepreneur qui avait une idée assez similaire à la mienne, qui avait une traction un peu plus importante en termes d'expérience et il avait déjà levé un peu de fonds. Finalement, il m'avait un petit peu survendu la chose. On a essayé de travailler ensemble pendant 2-3 mois. il n'y a pas eu un très très bon fit et on n'était pas tellement d'accord sur la proposition de valeur. Et en fait, j'avais l'impression de faire énormément de sacrifices et ça me convenait pas de travailler comme ça. Et donc, voilà, je lui ai dit au bout de quelques semaines que je préférais continuer avec Goodvest de manière indépendante. Et je ne regrette pas du tout ce choix et je pense que j'ai vraiment bien fait. J'avais en parallèle de ça un ami d'amis qui était vraiment très intéressé par le projet Goodvest, qui a été très fort en tech, qui a travaillé en consultant stratégique, en IT risk pour KPMG pendant plus d'un an, qui avant a développé des applications mobiles, qui a fait ses études à Concordia et à Les Frais, donc il s'appelle Antoine Beneteau. Et il est resté motivé pendant tout ce temps-là et il a démissionné de KPMG pour rejoindre Goodvest. Donc maintenant, c'est mon cofondateur. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Ça peut prendre quelques mois. Pour moi, du coup, ça a pris environ 4 mois pour trouver mon cofondateur. Mais au moins, maintenant, je suis sûr que c'est la bonne personne. Et vu que l'équipe, c'est souvent la principale cause de succès, mais aussi d'échec des startups, je pense que c'est important de prendre son temps pour être sûr d'avoir trouvé la bonne personne.
Et alors, ça m'intéresse de savoir ce qui te fait dire que c'est la bonne personne. Comment tu peux en être sûr ?
Alors bon, on n'en est jamais sûr, évidemment. Mais en tout cas, c'était une personne qui convenait plus à Goodvest et à moi que les deux personnes précédentes. Ensuite, on était assez complémentaires. Donc, Antoine s'occupe vraiment de la partie tech. Moi, je m'occupe vraiment plutôt de la partie business. On arrive sans problème à se dire quand on n'est pas d'accord. Et donc, la communication est très fluide. Et voilà, pour l'instant, c'est, puis on travaille très bien ensemble. En fait, on est efficace.
Et super. Et du coup, donc là, en fait, pendant un moment, tu étais seul, c'est ça ? Tu étais seul sur le projet. Antoine t'a rejoint vers quel mois ?
Antoine m'a rejoint pendant l'été. J'ai jamais été vraiment très longtemps seul, hein, parce qu'en fait, Yasmina a arrêté de travailler sur le projet, je dirais, en mai. Le même mois, j'ai été approché par l'autre entrepreneur. En un mois et demi, je me suis dit que c'était pas une bonne idée. Donc, j'ai jamais été vraiment seul sur le projet et tant mieux parce que je pense que c'est pas très agréable.
D'accord. Et du coup, quelles ont été les premières étapes selon toi du projet Goodvest ? Parce que se lancer dans un produit d'épargne, c'est pas le truc le plus facile du monde, quoi. En dehors, on va dire, de tout ce qui est administratif et très chiant, quelles ont été pour toi en fait les premières étapes du lancement, enfin, du projet en général ?
Alors, la première étape, c'est d'aller voir le marché directement. Donc, c'était vraiment interviewer les 400 épargnants avec un interview quantitatif et aussi avec une centaine d'interviews qualitatives pour vraiment comprendre ce qu'ils cherchaient. Et ensuite, une fois qu'on avait ça, développer le produit, commencer à développer le produit. Donc, c'était une des premières étapes, c'était obtenir un partenariat avec un assureur. Parce qu'on ne peut pas faire une solution d'épargne en fait, comme ça en France. Soit on est une société de gestion et c'est un autre métier de gérer des fonds. On gère des portefeuilles de fonds, mais pas des fonds directement. Soit on est une banque, soit on est un assureur, soit on travaille avec un assureur et donc on est courtier, comme nous. Donc voilà, il a fallu trouver ce partenariat et on a parlé avec beaucoup, beaucoup d'assureurs, avec quasiment la moitié des assureurs de la place. Ça a pris du temps, du coup ça a pris quasiment 5 mois pour trouver un partenariat avec un assureur parce qu'il y avait le confinement, parce que les assureurs c'est pas des startups, donc ça va pas à la vitesse d'une startup, c'est des grands groupes, c'est vitesse grand groupe quoi. Et il y a eu l'été entre temps, donc pareil ça a pris pas mal de temps. En parallèle on a décidé quand même qu'on n'allait pas ralentir à cause de ça, donc on a cherché à développer une traction commerciale. Donc, on a commencé à communiquer de manière importante sur les réseaux sociaux. On commence aussi les médias et la presse. Et en parallèle, on développe le produit. Donc, c'est un petit peu tout en même temps, puis on fait une levée de fonds. Donc, on essaie vraiment d'aller vite, en fait.
Très bien. Super cool. Du coup, là, en ce moment, vous êtes en train de lever des fonds. Est-ce que tu as des conseils à donner à tous ceux qui souhaitent lever des fonds ? Mais avant ça, j'aimerais bien savoir comment tu vis en fait cette première expérience de confrontation avec les VC, les BA. Est-ce que pour toi, c'est une bonne expérience ou pas ?
Alors bon, déjà avant de donner des conseils, il faudrait que je la termine, je pense, pour avoir une vue vraiment complète. Mais la première expérience que j'en ai, c'est que bah, il faut être patient parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Après, je pense que j'ai vraiment cherché, grâce au réseau d'HEC, à parler à des entrepreneurs qui ont vécu ça récemment et donc qui m'ont donné des bons conseils. Donc, je pense que ça m'a permis d'éviter pas mal d'erreurs et de ne pas perdre trop de temps non plus. Mais c'est quelque chose de long, en fait, hein. Surtout que j'essaye de ne pas contacter les business angels directement, mais de me faire recommander. Et donc, vu que j'ai que 23 ans, bah, ça, j'ai pas un réseau non plus incroyable en dehors de celui d'HEC. Donc, les mises en relation, ça prend du temps, il faut relancer. Donc, je dirais qu'il faut être patient, il faut essayer d'accélérer le processus autant que possible. Nous, on fait une levée en BSAR pour que ça aille plus vite et pour que la valorisation soit plus en accord avec la réalité. Voilà.
D'accord, j'expliquerai en description ce que c'est qu'une levée en BSAR. Je pense que ça parle pas à tout le monde. Et toi, qu'est-ce que tu attends en fait de tes investisseurs?
Alors,
En
j'attends
dehors de
deux.
l'argent, bien sûr, parce que c'est le but.
Des financements, effectivement, mais j'attends aussi un accompagnement. J'attends qu'ils m'aident à parfois mettre en relation avec de potentiels partenaires, donc avec leur réseau. Si c'est des anciens entrepreneurs qui m'accompagnent, qui me donnent des conseils, effectivement, je suis d'accord avec toi, les investisseurs, ce n'est pas que de l'argent. Et c'est très important d'être accompagné, parce que c'est pas comme tu le dis, l'entrepreneuriat, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et eux sont passés par là. Et donc, c'est très important.
Très bien. Et j'ai oublié de te poser une question, mais est-ce que vous avez trouvé un modèle économique pour Goodvest? Et si oui, c'est lequel?
Oui, alors, assez simple, c'est une commission du montant sous gestion de 1%, donc ce qui est à peu près deux fois moins cher que la concurrence. Faut savoir que c'est un point très important, les tarifs en termes d'épargne, parce que c'est souvent des frais cachés. Souvent, on dit, ah ben non, nos frais, c'est 1%, mais derrière, il y a des commissions de performance, des rétrocessions entre les sociétés de gestion et entre la solution d'assurance. Il y a beaucoup de frais cachés. Et donc, nous, on a un business model ultra simple, c'est 1% du montant sous gestion, point barre. Il n'y a pas de frais de performance, il n'y a pas de rétrocession, il n'y a pas de frais d'entrée, il n'y a pas de frais de sortie.
D'accord. Et aussi par rapport aux thématiques que tu évoquais tout à l'heure, c'était la transition énergétique, l'eau, l'égalité des sexes aussi, si je me souviens bien.
Oui.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces thématiques-là? Est-ce que, elles répondent aux objectifs de développement durable? Vous avez suivi un peu la liste des objectifs de développement durable de l'ONU ou c'est vraiment des objectifs qui vous tiennent à cœur? Parce qu'en soi, il y a énormément de thématiques en fait dans lesquelles on pourrait investir.
Bien sûr. Alors, il y a quatre raisons, en fait. D'abord, c'est la demande des épargnants. Parce qu'on en a interviewé 400, donc on a pu comprendre à quel thème ils étaient sensibles. Donc, en particulier, c'est l'environnement qui revenait souvent, l'égalité des genres, aussi la santé, surtout avec le contexte actuel. Il y a également une question de disponibilité de l'offre, parce qu'on travaille avec des sociétés de gestion, du coup, on a dû trouver des fonds qui correspondaient à ces thèmes-là et qui répondaient à plusieurs critères d'exigence qui sont assez poussés. Et donc voilà, on n'a pas des fonds sur absolument tous les thèmes, pour l'instant en tout cas. Il y a également une question de conviction, parce que nous, c'est des thèmes qui nous tiennent tous à cœur. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi les thèmes. Et on voulait aussi proposer vraiment une expérience qui soit transparente et pas du greenwashing. Donc on a été exigeant et on a choisi des thèmes où il y avait vraiment une méthodologie de sélection qui était exigeante, qui sont labellisées ISR ou Greenfin. Et qui sont alignés avec les 2 degrés de réchauffement climatique, et ça réduit quand même sacrément l'offre.
Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire. Moi, je me suis inscrite tout à l'heure pour la liste d'attente. Ton produit sort en janvier, c'est ça? Janvier?
Oui,
Ok.
oui. Il sort en janvier. Vas-y, vas-y. Excuse-moi.
Non, t'inquiète, vas-y.
Non, non, je disais effectivement, n'hésitez pas à vous préinscrire. Le site, c'est goodvest.fr. Et on offre les 3 premiers mois aux préinscrits.
Ah, parce qu'il y a aussi un abonnement au service.
Non, non, c'est les 3 premiers mois de frais sous gestion.
Ok, très bien. Et j'ai quelques questions par rapport du coup à toi en tant que CEO. Déjà, j'ai l'impression que en fait vous avez bien fait les choses dans le sens où vous êtes très très jeune. Tu as 23 ans, je ne sais pas quel âge a ton cofondateur.
Il y a 25 ans.
Ok, donc vous êtes ultra jeune, ce que je disais. Et en fait, j'ai l'impression que vous avez en fait les bons réflexes, c'est-à-dire que la première chose que vous avez fait, c'est interviewer les épargnants pour comprendre ce qu'ils voulaient, parce que vous n'êtes pas resté pendant des mois dans votre garage à fabriquer un truc ou à construire un produit, et à la fin, en fait, c'était quelque chose que vous vouliez vous, mais pas ce que les clients seraient prêts à acheter. Est-ce que tu as d'autres tips un peu comme ça à donner à tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat?
Bah, c'est un très bon tips qu'on a appris au Launchpad de tester le marché parce que c'est une perte de temps énorme de développer un produit puis de se rendre compte derrière que il n'y a pas de besoin. Donc oui, effectivement, moi je pense qu'il faut communiquer, il faut tester son idée, il faut la confronter au marché. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui se disent ah non, l'idée, il faut que je la garde pour moi parce que sinon quelqu'un va me la piquer. Bon, en fait, cette idée-là, si vous l'avez, il y a forcément quelqu'un qui l'a eu quelque part. Et donc, il faut la tester, il faut en parler au maximum de monde possible, il faut aller vite. C'est la seule solution pour ne pas se faire copier, c'est aller vite et aller plus vite que les autres. Ce n'est pas le garder en secret et puis avancer dans son plan.
Et surtout, si personne n'a eu cette idée avant, c'est que, je me souviens, mon prof de philo nous le disait quand on était en terminale, si vous pensez avoir une idée incroyable que personne n'a eu auparavant, c'est probablement de la merde. Et il faut drop cette idée. Personne ne, en fait, ça, si personne ne l'a fait auparavant, c'est parce que ça va rien rapporter et que c'est nul, en fait.
Ben, elle n'a pas tort. Il faut regarder aussi à l'étranger parce que nous, notre idée, par exemple, elle existe à l'étranger et elle marche à l'étranger. Donc, mais elle n'existe pas encore en
Il
France.
s'appelle comment votre équivalent américain? Je me souviens plus de son nom.
Alors, déjà, il y en a plusieurs au Royaume-Uni. C'est Keymate ou Ticker au Royaume-Uni. Il y a Open Invest aux US. Il y a Yova en Suisse. Il y a Goodmans en Australie. Donc, il y en a un peu partout, mais il n'y en a pas en France pour
Ouais,
l'instant.
c'est vrai. C'est vrai. Généralement, les startups françaises, je vais pas dire elles copient ce qui se fait aux États-Unis, c'est juste que les innovations débutent aux États-Unis, puis au fur et à mesure viennent en France, et ensuite elles vont aussi dans d'autres pays où peut-être l'innovation est plus tardive. Aussi, je voulais savoir si, et du coup, le fait d'être super jeune, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient dans le monde entrepreneurial?
C'est une bonne question. Je dirais un petit peu les deux. Ça peut être un inconvénient parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut avoir 45 ans pour créer sa boîte et qu'elle fonctionne. Je pense à un des assureurs avec lequel on a travaillé, qui voulait travailler avec nous au début, qui avait créé tout un slide deck qui montrait à l'équipe de direction et qui nous avait montré du coup pour présenter le projet Goodvest et voir si il voulait faire un partenariat avec nous. Et sur le slide deck, il y avait une slide avantage et une slide inconvénient. Et dans la slide inconvénient, il y avait un gros inconvénient, c'était trop jeune, vraiment. Et ils l'ont écrit tel quel, trop jeune. Quand j'ai vu le deck, je me suis dit, oula, c'est mal parti avec eux, je pense. Et il y en a d'autres qui considèrent au contraire que l'innovation peut vraiment venir des jeunes, surtout quand on parle d'impact, parce que c'est souvent les jeunes qui sont plutôt sensibles aux thèmes environnementaux, par exemple, et qui, eux, au contraire, nous font confiance. Donc, oui, je pense qu'il y a des acteurs qui sont un peu frileux. Il y en a d'autres qui prennent des risques, mais qui y croient, quoi.
Et toi, tu le vis comment en fait? Tu le vis comme un avantage ou un inconvénient si en dehors des gens en fait et des partenariats, toi, dans ton quotidien d'entrepreneur et de CEO, comment tu le vis? Est-ce que tu sens par exemple que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, que tu connais pas grand-chose, que c'est dur?
Bah alors, de toute façon, je pense que peu importe son âge, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très différent de ce qu'on a fait généralement. Et donc, de toute façon, il y a un apprentissage énorme. Quand on est assez jeune, on a encore une capacité d'apprentissage qui est assez élevée. Donc, c'est une bonne chose. On remarque aussi souvent que les personnes qui ont disrupté une industrie, n'avaient pas forcément d'expérience dans cette industrie-là avant, de manière énorme. Ils n'avaient pas fait 15 ans dans le secteur, généralement. Et parce que ça leur permet du coup de, voilà, d'avoir un regard un petit peu extérieur et de comprendre les problèmes et d'innover. Donc, je pense que ça a des points, je pense quand même que ça a des points positifs.
Ok, super. Et est-ce que depuis le début de ton aventure, est-ce que tu as vécu des choses, des moments difficiles, des choses un peu compliquées?
Alors oui, j'en ai eu quand même quelques-uns. Quand j'ai changé de c'est jamais agréable de changer d'associé, surtout que quand j'ai quitté donc mon précédent associé, il n'a pas très très bien pris. Il m'a envoyé un courrier pour me demander de partager les dépenses faites par sa société. Enfin, c'était un petit peu surréaliste. Donc, bien sûr, je lui devais absolument rien. On n'avait que signé un NDA et c'était sa société avec ses fonds, ses investisseurs. Donc, il n'y avait pas de raison que je paye les dépenses de mon futur concurrent. Donc, ça, ce n'est pas très agréable. Il y a des petites choses comme ça. Il y a aussi, évidemment, des moments où on se prend des noms en pleine face. Ça peut être d'investisseurs, de partenaires comme un assureur avec lequel on a finalement pas travaillé, mais heureusement on en a eu un autre. Donc voilà, il y a des moments difficiles, oui.
J'imagine, mais je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Je ne le souhaite pas, mais ça fait partie du jeu aussi.
C'est le challenge.
Pardon ?
C'est le challenge.
Exactement. Et c'est quoi ta vision là pour GoodVest? Qu'est-ce que tu comptes faire les mois à venir? Et quelle est ta vision en fait sur le long terme pour ton entreprise?
Notre objectif, c'est vraiment de démocratiser l'investissement responsable parce que là aujourd'hui, il n'y a que 5% des Français qui ont dans leur épargne des produits responsables. Et c'est vraiment dommage parce que ça a vraiment un impact énorme. Ça a encore plus d'impact que l'investissement responsable que manger moins de viande ou prendre moins l'avion. Et c'est aussi d'apporter de la pédagogie dans l'épargne parce qu'aujourd'hui, les épargnants ne comprennent pas ce qu'il y a dans leur épargne. Nous, on a vraiment une dimension pédagogique, on indique l'empreinte carbone des fonds et on veut dynamiser l'épargne des Français qui, aujourd'hui, rapportent très peu, elles ne travaillent pas. Et donc, c'est d'améliorer la performance de l'épargne des épargnants. Et sur le point de vue commercial, donc, comment ça se traduit? On vise nos 10 000 premiers clients en un an et demi. Et ensuite, voilà, on a vraiment, si on veut démocratiser l'investissement responsable, il faut vraiment qu'il y ait un maximum d'épargnants qui s'y mettent. On espère aussi encourager d'autres acteurs à privilégier une épargne et des fonds plus responsables. Et sur le moyen long terme, on proposera d'autres enveloppes d'investissement que l'assurance vie, qui est très avantageuse parce qu'elle a des avantages fiscaux, mais on proposera des produits complémentaires comme par exemple un PER, donc il y a un plan d'épargne de retraite. Voilà.
D'accord. Là, vous en êtes combien à combien de préinscrits?
Là, on est un peu plus de 700 préinscriptions.
D'accord. Donc, allez vous inscrire. c'est vraiment, moi je trouve que c'est assez révolutionnaire dans le sens où c'est bizarre en fait que personne n'ait fait ça auparavant en France. Alors, mais tu me diras, de toute façon, toutes les néobanques vertes se sont lancées en même temps. Donc, avoir plein de concurrents là qui travaillent en cachette.
Peut-être. En tout cas, les néobanques, c'est plutôt nos partenaires. Donc,
Ouais. Voilà. Une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre?
En ce moment, j'en ai pas beaucoup. Surtout que le confinement n'aide pas. Mais j'écoute de la musique. Là, dernièrement, je me suis remis aux échecs. En sport, je suis passionné d'escalade. Bon, là, pareil, avec le confinement, ça aide pas. Puis je suis l'actualité. Mais en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps libre, pour être honnête. Même si j'essaie de rester connecté au monde réel et parfois de déconnecter un peu de GoodVest.
Très bien. En fait, non, c'était mon avant-dernière question parce que je voulais te demander si vous aviez commencé à recruter.
Alors, on a commencé à recruter. On est trois désormais chez GoodVest. On a également Manon qui est diplômée de l'ESCP, qui est mon bras droit. Et donc là, on va recruter, on va ouvrir des postes prochainement en développeur mobile, également conseiller en gestion de patrimoine et en marketing.
Ok. Bon, moi, je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès avec GoodVest. Et merci beaucoup et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup à toi.
Salut!
Merci à Joseph pour son temps et son accessibilité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast et à vous abonner à la newsletter. Toutes les infos sont dans la description. Je vous souhaite quant à moi une super semaine et à très bientôt.